Oui, puis la parole aux professionnels pour faire mieux connaître leur travail, évoquer ces évolutions, faire émerger des pistes de réflexion, d'action autour de sujets que nous déterminons en fonction de l'actualité de notre secteur, mais aussi de nos centres d'intérêt et motivation pour ce métier. Aujourd'hui, notre émission sera consacrée à la question de l'interculturalité dans l'action sociale et éducative.
Alors bonsoir à tous, Geneviève, bonsoir aux auditeurs et bonsoir à nos invités. Alors c'est vrai qu'avec Tinina, nous avons pensé à ce terme de l'interculturalité de par notre profession évidemment, mais nous sommes dit également que l'on soit travailleur social intervenant dans la relation d'aide à l'individu, que l'on travaille dans le collectif, dans l'action collective, que l'on soit grand voyageur ou non, que l'on soit sédentaire, quelle que soit, je pense, la place où l'on se situe dans ce monde, la question de l'interculturel, je pense, est à se poser pour tout le monde. C'est vrai que moi, j'avais simplement, pour mettre en place ce sujet, quelques petits mots, voilà, qui viennent à l'esprit quand on parle de l'interculturel, peut-être des mots comme comprendre, différence, mixité, rencontre, confrontation, ressemblance, dissemblance, ethnocentrisme, acculturation, culture croisée, l'échange, la peur, l'inconnu, la richesse, l'angoisse, la perte de soi, le dialogue, l'altérité. Plein de choses qui se cachent derrière ce thème et pour lequel nous avons donc tous ces invités pour échanger ensemble et nous ouvrir à plein de choses. Voilà.
Donc en effet, pour échanger autour de ces questions et autour de ce thème, nous recevons ce soir des acteurs du champ social. Nos invités ont accepté de partager avec nous leurs expériences et leurs analyses sur la question interculturelle dans l'action socio-éducative en France aujourd'hui. Donc nous accueillons Briac Chauvel, ethnologue intervenant, formateur sur les questions interculturelles dans l'action sociale et éducative. Bonsoir.
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 Carole Daine, assistante sociale de formation puis consultante dans des instances internationales, ayant exercé aux USA et en France et actuellement présidente de l'association Développement Inventif Sénégal. Bonsoir Carole.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et Stéphane Tessier, médecin, président de l'association Regard au pluriel, ayant une expérience en Afrique, au Botswana précisément. Ayant exercé également au Centre international de l'enfance, notamment sur la question des enfants des rues, et au sein du comité régional, d'éducation pour la santé d'Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Donc, nous donnons la parole à nos invités afin qu'ils puissent se présenter eux-mêmes et présenter leur parcours et leur expérience de l'approche interculturelle. Donc, on va donner la parole à Madame Carole.
Bon. Mais avant de parler de mon parcours, je voudrais dire au préalable que j'emploie peu le mot interculturel, car il recouvre trop d'ambiguïté et nous demande en tous les cas d'expliquer ce qu'on entend par culture. Maintenant, pour comprendre mon parcours, il faudrait savoir que pour moi, le travail social a été un véritable choix. Certes, j'ai voulu aider les autres, mais j'ai aussi voulu connaître les autres. C'est que déjà en tant qu'enfant et adolescent aux États-Unis, j'avais joué du théâtre avec des Juifs, des Noirs, des Irlandais, des WASP et d'autres. Étudiant et adulte, j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager. Donc, j'ai toujours vécu la mixité, le brassage des gens et cela m'a passionnée et devenue professionnelle, j'ai voulu exercer dans des milieux différents. C'est pourquoi, devenue assistante sociale, j'ai choisi de travailler dans un ghetto noir à la Nouvelle-Orléans pendant les années 70. C'est pourquoi j'ai renforcé la dimension internationale lorsque j'étais déléguée permanente puis présidente de l'Association nationale des assistantes sociaux. C'était en 94-96. C'est pourquoi je me suis franchement éclatée comme responsable du pôle santé à Mantes-la-Jolie, où se trouvent des dizaines de nationalités différentes. Et j'ai été amenée à représenter en 2009 et 2010 l'interréseau des professionnels de développement social urbain dans le cadre d'un projet européen. Je viens de mentionner certaines de mes fonctions les plus importantes. Mais pendant 40 ans, il y en avait d'autres. dans le travail comme assistante sociale polyvalente de secteur en Seine-Saint-Denis et à la Mutualité sociale agricole. Si ma vie professionnelle a été très riche et satisfaisante, pas d'ennui, pas de burn-out, c'est que l'interculturel y était pour beaucoup, même si j'emploie ce mot avec précaution. Côtoyer des gens différents que soi, c'est donc pour moi une grande aventure et je pense que cette vision a facilité mes rapports avec tous les publics. Mais j'avoue que l'interculturel, cette proximité avec l'autre, n'est pas toujours facile. Des réflexes plus ou moins conscients de peur, voire de rejet, peuvent se manifester consciemment ou non. D'où l'importance du travail sur soi. Ce travail a fait partie de mon parcours.
Merci, bien, Carole.
Merci beaucoup, Carole.
Merci. Nous allons donner la parole à Stéphane.
Oui, merci. Honneur aux vieux.
Pas du tout.
Donc oui, moi, mon parcours, en fait, était au départ médecine tropicale, puisque je me suis spécialisé d'emblée dans les années 70 pour partir la fleur au stéto dans les développements. Et donc j'ai commencé dans un pays en guerre, c'était la Zambie, pays anglophone, avec un double décentrage, un décentrage en Afrique, un décentrage en pays qui ne partageait pas les mêmes critères administratifs que ceux dans lesquels j'avais été formé. À l'évidence, quand on est médecin, on est confronté à la différence de culture, ne serait-ce que la culture du soignant et du soigné ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes représentations du monde, et a fortiori quand on ne parle pas la même langue, et de surcroît quand on ne partage pas les mêmes environnements de représentation de place dans le monde et de savoir qui... oui... À partir de là, j'ai développé effectivement une réflexion approfondie au Botswana. Vous en avez parlé, où je suis resté quatre longues années et où j'ai été confronté là du coup à l'espace de la maladie dans un univers tout à fait nouveau. Quand un malade s'adressait à moi en disant « Docteur, j'ai mal à la route, c'est la route au cou », j'étais un peu perplexe. J'étais un peu perplexe et j'avais pas vraiment été outillé pour ça. Donc il a fallu forger des outils que j'ai trouvés en fait déjà forgés dans le cadre de l'anthropologie et que j'ai pu appliquer dans différents secteurs et en particulier les problématiques liées aux enfants. Dans une deuxième décennie de ma vie professionnelle, les enfants, pas seulement dans les univers exotiques. C'est là où je me suis rendu compte que l'interculturel n'était pas strictement exotique, mais pouvait être tout à fait ici et maintenant un travail sur les différences de représentation, les différences de positionnement de soi-même par rapport au monde et de recherche dans son environnement. Et puis, dans une ultime étape, dont je vais pas faire mon CV, qui serait un peu trop long, vu le privilège de l'âge dont je parlais tout à l'heure, mais nous avons fondé avec Étienne Leroy, Ronnie Broman, donc humanitaire, et Catherine Sultan, et un certain nombre d'acteurs, Eric Marchandet, etc., cette association s'appelle Repenser et gérer l'altérité pour refonder la démocratie et les solidarités, regard, qui cherche à travailler à la fois sur le plan théorique sur ces questions qui traversent la société française d'aujourd'hui. On aura l'occasion de revenir sur le pourquoi aujourd'hui ce sujet est un peu sensible, et en même temps d'outiller concrètement les travailleurs sociaux, éducatifs, judiciaires, sanitaires, pour pouvoir aborder cette question qui est très souvent mise sous le boisseau parce qu'il y a beaucoup de coups à prendre et on préfère ne pas s'en préoccuper.
Merci. D'accord, Stéphane. Merci Stéphane. Briac, bonsoir Briac.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors moi c'est assez compliqué de dire qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui je sois formateur ou intervenant sur les questions interculturelles, parce que je crois que ça résulte en fait d'une série de hasards et de bifurcations. Si je dois répondre en quelques mots, je crois qu'il y a quelque chose qui vient aussi de mon histoire personnelle et qui fait que j'ai été un enfant puis un adolescent très rapidement hypersensible aux questions de racisme et dans un état de sidération et d'incompréhension. Pour la petite histoire, je suis le petit-fils de deux familles bretonnes catholiques de droite. Mes parents représentant l'exception culturelle et politique de ces familles ayant franchi la ligne politique. Et donc j'ai été, moi, éduqué et socialisé en banlieue parisienne. Et j'ai rapidement eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi mes amis, mes fréquentations scolaires, les jeunes auprès de qui je grandissais, faisaient l'objet de commentaires aussi désobligeants de la part d'une bonne partie de ma famille. Donc c'est quelque chose qui m'a, je crois, interrogé très jeune. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui était un passionné des peuples amérindiens, de l'Égypte antique, de tout ce qui n'était finalement pas lui, et je crois que j'ai développé un goût assez tôt pour ce qui n'était pas moi, ce qui n'était pas l'ordre de ma socialisation, de mon groupe social et culturel. Après, plus précisément, j'ai fait de l'anthropologie à l'université après des études en histoire, et puis je n'ai pas eu réellement envie de m'engager dans un travail de recherche ou de thèse, donc directement après mon DEA d'ethnologie, j'ai enseigné, j'étais professeur de lettres histoire en lycée professionnel, et là j'ai commencé également à me gratter la tête en observant un certain nombre de préjugés ou de comportements que je trouvais assez post-coloniaux de mes collègues enseignants, dans la manière dont ils considéraient les jeunesses urbaines des quartiers périphériques qui ont la chance d'être formées dans les lycées professionnels. Et ce qui fait que de fil en aiguille, du fait aussi sans doute que j'étais contractuel, donc toujours sur des contrats d'enseignement très instables, on m'a proposé petit à petit d'animer des formations qui étaient des formes d'initiation ou d'introduction à l'ethnologie ou à l'anthropologie pour des métiers de l'action sociale et éducative, des interventions aussi d'initiation à l'ethnologie pour des enfants dans les écoles, dans les collèges, etc. Ce qui fait que de fil en aiguille, je me suis mis à travailler pour différents organismes, donc pour lesquels je travaille actuellement. Donc parmi eux, il y a l'ADRIC, l'Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté, qui est un cabinet qui rassemble des sociologues et des anthropologues sur les questions interculturelles dans l'action sociale et éducative. Je travaille également pour un organisme qui s'appelle Expression, qui est un cabinet psychosociologique, mais qui propose aussi des formations dites interculturelles. Je travaille régulièrement pour l'IRTS Parmentier à Paris dans des formations interculturelles pour les éducateurs. Et puis pour un réseau d'intervenants, de sociologues et d'anthropologues qui s'appelle Tessiture et qui intervient également en Île-de-France sur ces questions.
D'accord. Merci, Briac.
L'interculturel.
Je crois qu'il y a des bons et des mauvais usages du mot. Il y a des bons usages qui est le fait de comprendre que l'autre est différent avec un grand A. C'est quelqu'un qui pense pas comme soi. C'est quelqu'un qui, pour autant, mérite de vivre et partage le même espace et a ses propres façons de se relationner au monde et à son environnement. Donc ça, et pour le comprendre, il faut justement faire un pont entre cette culture que moi je préfère restreindre à l'acception stricte. La culture, c'est la façon de voir le monde et de se positionner dans le monde. Okay. Et voilà, quelle que soit cette façon, englobant même les façons qui sont pas du tout exotiques, comme celle de l'adolescent, la personne âgée, le psychiatre et l'agent de police, qui n'ont pas le même temps pour prendre une décision et pour envisager la réalité. Ils sont dans des relations interculturelles. Donc ça à mon avis, c'est le bon usage. C'est-à-dire essayer de comprendre l'autre et de l'intégrer, et d'intégrer cette différence. Avec le travail sur soi-même que Carole citait tout à l'heure, qui est absolument indispensable. J'ai coutume de dire que le pendant de l'enfer, c'est les autres. C'est « je est un autre ». C'est-à-dire, je dois me voir comme un autre et je dois comprendre quelle est ma posture, quels sont les biais que j'ai, ma subjectivité, qui me font envisager la vie et le monde d'une certaine façon, et certainement pas prétendre à l'objectivité, parce que l'objectivité n'existe pas. À côté de ça, il y a des mauvais usages du mot, qui sont de tout culturaliser, de tout transformer en « c'est normal, c'est un autre ». C'est normal, c'est un étranger, il est pauvre, il est délinquant, il se retrouve dans les prisons, voilà, et d'englober dans cette interculturelle tout ce qu'on refuse de traiter sous un angle social, psychologique, économique, et qui pourrait en revanche s'y trouver. Voilà. Merci.
Carole ?
Oui. Moi, j'aime bien l'idée de Stéphane que la culture est une façon de voir le monde et de se positionner dans le monde. Moi, je pense, en réfléchissant, je peux avancer trois définitions de la culture. La première, la capacité pour les individus à utiliser leurs ressources propres et celles de leurs différents groupes d'appartenance pour comprendre leur environnement et agir pour le transformer. C'est une définition qui, quelque part, rejoint ce qu'a dit Stéphane. Deuxième type de définition, c'est l'ensemble des connaissances acquises. Définition du mot « culture ». L'ensemble des connaissances acquises qui permettent de développer le sens critique, le goût, le jugement. Cette définition fait penser au sens même du travail social, car il met l'accent sur l'épanouissement de la personne. Troisième définition, manifestement la plus restreinte, la culture renvoie aux caractéristiques d'un peuple dans un contexte déterminé de l'histoire, c'est-à-dire les valeurs, habitudes, mœurs, arts, langues et autres caractéristiques de ce peuple. Mais si on pense l'interculturel uniquement dans un sens restreint, comme dans cette troisième définition, par exemple par rapport aux origines géographiques ou ethniques des usagers, c'est extrêmement réducteur. De plus, il faut insister que chaque individu a plusieurs références culturelles. Les appartenances, même très fortes, des individus à des groupes sociaux ne doivent pas masquer l'histoire unique et le vécu intime de chaque personne. Et pourtant, écoutez bien sur le terrain les discours. Écoutez comment on arrive à catégoriser les usagers, les Africains, les Juifs, les Arabes, les jeunes issus de l'immigration. Ils sont comme ça. Toutefois, un jeune peut s'identifier culturellement comme un jeune, un habitant de telle ou telle ville ou quartier, un Français ou issu de l'immigration, un diplômé bac plus 5 ou chômeur, un musulman, juif ou chrétien, pratiquant ou non. Il y a en quelque sorte une identité au pluriel. Parler de l'identité telle qu'elle est vécue peut être une excellente technique de la relation socio-éducative. Mais le professionnel doit souvent être patient, guetter les moments pour aborder des questions qui peuvent être sensibles. Je me rappelle d'avoir ramené chez elle en voiture une jeune française d'origine maghrébine, et c'est seulement au moment de descendre de la voiture qu'elle a commencé à parler de ses difficultés liées à sa double culture. Il faut aussi dire que certaines vivent leur appartenance multiple plus facilement que d'autres. Si on admet donc que chaque personne et donc chaque travailleur social a plusieurs références culturelles, l'interculturel en travail social, pour moi, renvoie aux interactions et la communication entre les institutions, les travailleurs sociaux et les personnes bénéficiaires des interventions socio-éducatives. Le professionnel peut se retrouver dans une situation où la dimension interculturelle est déjà présente, ou bien il peut délibérément choisir de travailler sur les rapports interculturels. C'est dans ce deuxième scénario, que je pourrais éventuellement parler d'approche interculturelle.
Merci beaucoup, Caroline.
Briac.
Alors, je crois que vous commencez avec la question la plus compliquée, et que finalement, enfin, ce que j'espère, c'est que les auditeurs, c'est plutôt à la fin de l'émission qu'ils en auront peut-être une vision plus cohérente par moment, mais aussi peut-être plus complexe, parce que Je crois que justement, parfois, il y a des choses qui conviennent de pas définir trop précisément. Alors, je crois un peu comme ce que vous disiez au départ. Alors, l'un et l'autre. D'abord, effectivement, il y a dans le terme interculturel toute l'ambiguïté des définitions qu'on va mettre derrière le terme culture. Et la deuxième chose, effectivement, je crois comme vous que, alors peut-être pas qu'il y a des bons ou des mauvais usages, mais il y a des usages plus ou moins définis en fonction de la réalité qu'on veut désigner. Je vois déjà peut-être trois grands sens à découper, à distinguer. L'interculturel, est-ce que c'est un synonyme de la diversité culturelle, des divergences sociales et culturelles, voire parfois des inégalités socio-économiques? Est-ce que c'est un terme qu'on emploie pour dire, tiens, il y a des différences, il y a des divergences entre groupes et individus socialisés ou éduqués différemment? Moi, c'est un usage, tu vois, je l'emploie pas. Je préfère parler de diversité, de divergence, de conflit, d'inégalité, s'il s'agit de caractériser dans une société précise des différences de socialisation, d'éducation, de manière d'être au monde. L'interculturel, il peut être aussi placé sous l'ordre de l'intention. La volonté de mettre en contact ou en relation des individus ou des groupes qui n'ont pas forcément les mêmes perceptions, les mêmes manières d'être au monde, et auquel cas il ne s'agit plus de désigner un état de choses, mais de désigner une volonté d'essayer, alors qui peut être vue de manière hospitalière, critique, intellectuelle, etc. Tiens, que faisons-nous de ces relations qui vont avoir lieu entre des personnes et des groupes différents? Et enfin, il y a l'interculturel tel qu'il est, tel qu'on le voit, tel qu'il est pratiqué dans les différentes dimensions de l'action sociale, éducative et sanitaire. Et puis, il y a tel qu'on aimerait qu'il soit. Quelle serait une espèce de prise en considération des problématiques interculturelles telles qu'on aimerait la mettre en ordre. Ça me semble pas fondamental d'obtenir une définition achevée et peaufinée de l'interculturel. Il m'arrive même d'ailleurs, moi, parfois en formation, de jouer sur cet implicite, c'est-à-dire d'utiliser aussi l'implicite culturaliste, j'espère qu'on le définira tout à l'heure, lié à l'interculturel, parce que c'est aussi une manière de produire des discours chez les personnes auprès de qui je travaille, qui vont être culturalistes, et à partir desquels on va pouvoir discuter et justement rendre un peu plus problématique que la définition de départ. Ce qui me semble important dans ce cas de figure, parce que l'interculturel...
Peut-être les pièges courants de... plutôt les écueils dans lesquels on risque de tomber, ou dans lesquels fréquemment on peut arriver à tomber quand on parle de l'interculturel, aussi bien dans nos pratiques sociales que lorsque dans les formations, même dans la vie courante, voilà, peut-être des termes comme des représentations, l'ethnocentrisme, etc. Donc, pour cela, nous allons donner la parole à Briac, s'il le veut bien.
Oui, je veux bien.
Ça tombe bien.
Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que souvent, j'entame mes formations justement par recueillir de la parole, des descriptions des participants, justement pour les prendre au piège de la pensée ethnocentrique, culturaliste, pseudo-universaliste, des écueils aussi de certaines formes de relativisme culturel. Une des premières choses, moi, ce qui me semble importante à transmettre dans une formation interculturelle, c'est que, chaque personne a de bonnes raisons d'être ethnocentrique, que c'est vraiment ce qu'il y a de plus banal au sein de l'humanité. Montaigne en parlait avant même l'emploi du mot. L'ethnocentrisme, c'est chacun homme barbariste qui n'est point de son usage. C'est la manière dont tous nos contemporains humains vont avoir tendance à penser que les autres... C'est la phrase d'Obélix, quoi. Ils sont fous, ces Romains. Ceux qui ne font pas comme nous sont nécessairement irrationnels. Ce qui me semble important, c'est alors aussi de consacrer du temps à définir l'ethnocentrisme. C'est pas qu'une affaire, justement, géographique ou de tribus ou d'ethnies dont on rêve, dont on pense que dans leur jungle fermée sur leurs usages, ils pensaient que le voisin était nécessairement un barbare et que maintenant, nous, hommes modernes, nous serions parfaitement conscients de la relativité des cultures. L'ethnocentrisme, ça concerne pas que les relations entre culture géographique ou culture locale. Il y a aussi ce que les sociologues nomment l'ethnocentrisme de classe, c'est-à-dire qu'on est aussi socialisé, éduqué au sein d'une classe sociale particulière qui va nous donner des usages et qui vont nous donner envie de penser que vraiment c'est scandaleux la manière dont les enfants de bourgeois ou les enfants d'ouvriers sont éduqués, puisqu'ils ne sont pas éduqués de la même manière que nous-mêmes à la maison. Alors les effets de l'ethnocentrisme, ils sont très importants parce que c'est pas uniquement dans la parole que ça se joue, ça se joue aussi dans la petite enfance, ça se joue aussi dans les gestes, dans la symbolique des gestes, ça se joue aussi dans ce qu'on estime être la norme. Si je peux me permettre une petite anecdote qui m'avait été confiée par un participant à une formation que j'avais trouvé extrêmement intéressante. C'est un homme qui était médiateur et qui essayait de faire comprendre justement à ma place ce que pouvait être l'ethnocentrisme dans la vie de tous les jours et un ethnocentrisme qu'on n'avait pas subodoré. Cet homme nous raconte qu'il était né en Mauritanie, qu'il était de culture peul, qu'il a d'abord émigré en Russie et puis qu'ensuite il s'est installé en France. Et il nous raconte, bah voyez, moi quand j'étais petit, il y a une chose que j'ai appris très tôt, c'est que quand on allait faire ses besoins, on n'en parle pas. C'est considéré comme extrêmement sale, impur, répugnant que d'expliquer à quelqu'un d'autre ce que l'on va faire quand on va effectuer un besoin naturel. Et il nous explique que quand il est arrivé en France et quand il a entendu l'expression française « je vais faire pipi », ça lui provoquait un désagrément extrêmement. Il expliquait une secousse physique, d'ordre électrique vraiment, mais que ces gens sont dégueulasses, quoi. Comment peut-on dire ça? Et puis les gens réagissent normalement comme si rien n'avait été dit. Et nous expliquait ensuite que, lorsqu'il a vu ses propres enfants commencer à dire l'expression enfantine « je vais faire pipi », il ressentait le même choc, c'est-à-dire qu'il voyait ses enfants comme des étrangers à lui-même qui n'avaient pas compris des règles élémentaires de pudeur et d'hygiène. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il expliquait qu'il en a fait usage de cette incompréhension. Alors il nous expliquait qu'il a mis quand même 10 ans à ne plus être choqué par cette simple expression. Et ça, c'est quelque chose effectivement qu'on peut ressentir dès lors qu'un usage social ou culturel nous semble très différent d'une autre. Et qu'il en avait fait usage un jour ou lorsque dans une réunion, une visite médiatisée entre un psychologue, des éducateurs, lui-même et puis une famille. Sa collègue sort de la salle et dit aux parents « je vais faire pipi » et qu'il a vu la même secousse émaner du corps du père de famille qui était évidemment très choqué par cette expression et qu'il a utilisé ça, c'est-à-dire sa surprise de départ. Quelques mots sur l'ethnocentrisme. Je crois que c'est pas une maladie mentale ou intellectuelle à partir du moment où on en prend conscience. C'est-à-dire l'idée d'accepter que nous ne sommes pas des êtres humains universels élevés selon des conventions internationales, mais que nous sommes tous bien de quelque part, que ce quelque part c'est pas uniquement notre bled ou notre culture locale, mais c'est aussi le quelque part de la classe sociale, le quelque part de la culture religieuse, de la culture professionnelle, des convictions politiques, des usages familiaux, et tout cela nous centre quelque part, qui fait que, a priori, nous avons bien du mal à comprendre des normes différentes des nôtres, et que ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler en permanence dans l'interculturel.
Alors, c'est rigolo, ça me donne envie de rebondir par rapport à l'exemple, alors, pas pour s'étendre dessus, mais sur le « je vais faire pipi ». Aujourd'hui même, j'ai un collègue qui m'a dit « mais ça, c'est typiquement féminin ». D'avoir besoin d'aller dire ce qu'on va faire. Donc c'est quand même rigolo, ça renvoie aussi à la question de genre que de dire que c'est typiquement féminin.
Oui, parce que ça, la noblesse masculine veut que chez les hommes, on dit « je vais pisser » et que c'est infiniment plus joli, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on peut toujours attribuer à quelqu'un d'autre, d'accord, ce qui est typiquement féminin. J'ai dit moi-même que c'était enfantin. Toujours est-il que c'est une expression qui va pas scandaliser majoritairement quelqu'un qui va s'exprimer en français, qui va dire « je vais faire pipi » et qu'on peine donc à prendre conscience du fait qu'il y a des personnes pour qui ça peut être une expression extrêmement grossière. C'était vraiment la seule remarque que je voulais faire à ce sujet.
Non, mais je comprends bien, mais du coup, ça me renvoie à plein d'exemples, comme le fait de manger avec la main droite, la main gauche. C'est des codes de référence qu'effectivement, on peut avoir dans une société qui peuvent être complètement différents, voire opposés dans un autre. Dans une autre société.
Mais comme le fait aussi, de sentir la nourriture.
Comme le fait de sentir la nourriture avant de la goûter.
Mais qui peut aussi opposer des cultures générationnelles. Il y a un truc que les adolescents disent souvent, c'est « ça se fait pas ». Et vraiment, l'ethnocentrisme, c'est le « ça se fait pas ». C'est-à-dire quand on a l'impression que ce que font les autres, ce n'est pas correct dans les usages que l'on considère comme conformes à son propre groupe.
Moi, j'ai envie de rebondir aussi sur ça, parce que j'ai eu un exemple surprenant au Sénégal récemment où un jeune de 30 ans me dit « on ne nous a pas appris comment il faut faire ses besoins, c'est-à-dire se laver les mains avant, après ». J'étais même surprise qu'il parle de ça, mais c'est pas clair ce que j'ai...
Ah bon?
Mais au-delà de ça, ça illustre que l'interculturel va très loin dans l'intime des personnes. Hein? Ça remonte très loin à l'enfance de chacun. D'où l'importance du travail sur soi dont j'ai déjà parlé. J'ai d'autres remarques par rapport au piège, mais je laisserai la parole à Stéphane d'abord.
Oui, mais je pense que c'est très intéressant là, ces exemples-là, mais je pense qu'on frise aussi, on est en train de frôler un des écueils majeurs de l'interculturel, qui est l'amalgame. C'est-à-dire que, Carole, tu parles du Sénégal, vous parlez du Peul, qui, voilà, et on peut très vite faire un amalgame entre Peul, il faut surtout pas parler de pipi devant un Peul. Ou au Sénégal, les Sénégalais ne se lavent pas les mains. Et c'est ça, je pense, que l'écueil le principal de cette notion d'interculturel, c'est d'assimiler des origines géographiques ou des origines prétendues ethniques ou des noms à des comportements. Et de dire que tous ceux qui portent le même nom sont susceptibles de présenter le même comportement. Et d'effectuer des généralisations et des stéréotypes. C'est-à-dire que finalement, on met tout le monde dans le même sac. Ce qui est un mode de fonctionnement très facile, comme l'ethnocentrisme que vous avez décrit, qui est exactement ça. C'est-à-dire que l'être humain fonctionne par des généralisations. Les Anglais sont comme ça, les Américains sont comme ça, les femmes sont comme ça. La sagesse populaire dit bien, quand une petite fille vient au monde, c'est encore une pisseuse. Moi, j'ai deux filles, voilà. Et il faut ce travail sur soi-même extrêmement important, mais qui est un travail aussi collectif. C'est-à-dire, c'est un travail qui doit se fonder sur l'imaginaire collectif. Cette socialisation de classe dont Briac parlait à l'instant, c'est une socialisation aussi de nation. Et la nation française, c'est une nation coloniale. C'est une nation qui s'est forgée pendant tout le 19e et le 20e siècle un imaginaire qui était l'empire dominant l'ensemble du monde barbare, l'ensemble du monde sauvage, et qui justifiait justement cette notion d'empire en dégradant l'ensemble des autres populations, avec le racisme évolutionniste, dont les plus énormes productions ne sont pas si anciennes, elles n'ont pas un siècle, c'est les années 30. Et les années 30, avant que le nazisme occupe la France. Mais on trouve des textes absolument insensés. Et ce sont des textes dont personne n'a véritablement parlé. Et lorsqu'on parle d'interculturel et qu'on envisage l'interculturel sous cet angle exotique, émerge ce refoulé colonial. Et c'est ça le principal écueil, à mon avis, de l'interculturel, c'est de ne pas travailler ce qui est refoulé collectivement dans notre imaginaire français. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait ce que les Allemands ont fait après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une psychanalyse collective. Ils ont fait Nuremberg et puis ils se sont dit, voilà, on a commis ces crimes-là et nous sommes arrivés à là, de cette façon-là. Et c'est ce qui s'est produit. En France, on n'a pas du tout fait ça. On commence à parler de la guerre d'Algérie, mais de la guerre d'Algérie en tant que guerre. Mais ce qui a précédé la guerre d'Algérie, donc toute la phase d'occupation et tout l'imaginaire colonial qui s'est forgé par les publicités, les exemples abondent. Et à la radio, on n'a pas de possibilité de mettre des images. Mais sinon, on pourrait le faire. Imprègne l'ensemble des acteurs sociaux tout aussi, de quelque bonne volonté soit-il. Ça n'est pas travaillé, ça n'est pas... Et comme tout refoulé, le refoulé, il émerge au plus mauvais moment. C'est-à-dire quand il y a un conflit, quand il y a un malentendu, quand il y a un patient qui commence à être un peu réticent, à pas suivre les... On va dire, oui, voilà, c'est le syndrome méditerranéen. Ce qui ne veut rien dire et qui est, c'est, à mon avis, un des écueils principaux.
Alors, Briac, vous acquiescez avant juste de vous donner la parole.
J'acquiesce pas complètement, c'est pour ça, justement.
D'accord. Mais juste avant de vous donner la parole, j'aimerais que Stéphane puisse préciser. Vous avez parlé, pour nos auditeurs qui ne sont pas avertis. Voilà, la psychanalyse collective, c'est quoi ?
Non, c'est un travail. Ça n'existe pas en tant que tel. Je veux dire, on ne va pas allonger la France sur un canapé à côté d'un psychanalyste. Non, c'est un travail au niveau de l'éducation, au niveau aussi de l'éducation populaire, donc de l'éducation des adultes, au niveau des médias, qui exigerait qu'on se retourne sereinement sur ce passé colonial et qu'on envisage non pas comme étant, il n'est pas question de s'auto-flageller, il n'est pas question de dire c'est ma faute, on n'est pas porteur de ses péchés, mais de réaliser ce que notre histoire porte et de réaliser en quoi cette socialisation de la petite enfance véhicule encore, comme stéréotype, comme idée de l'autre, le barbare, comme idée du sauvage qui est dangereux, périlleux et qu'il faut mater, qu'il est un délinquant en puissance, qu'il faut envoyer l'armée, lioter, etc. et tous les autres généraux qui sont montés en héros, qui en réalité ont été véritablement des barbares et qui ont commis des exactions épouvantables au nom d'un empire français qui reste encore prégnant dans les esprits. Et je pense que c'est ça la psychanalyse collective. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse autant de succès à des films comme Indigène, Hors la loi, etc., que à des hommes et des dieux.
D'accord. Alors là, vous acquiescez ou ça vous inspire
Ah non, c'est pas ça. Il y a deux choses. C'est-à-dire que déjà, vous nous avez fait dire des choses qu'on n'a pas dites, à savoir, quand je donnais cet exemple qui appartient à cet homme.
Je vais vous frôler, hein.
Je sais, mais de toute façon, tant pis pour vous maintenant. Je n'ai absolument pas dit qu'il fallait de ce fait interroger ou faire des questionnaires généraux pour chaque individu pour savoir à quel groupe culturel on doit l'assimiler pour considérer ensuite que nous devons adapter en permanence des usages particuliers. Ah, celui-là, c'est un basque, un breton, un soninké, un vietnamien ou je ne sais quoi. Et du coup, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que l'ethnocentrisme, c'est une centration sur son groupe, que ce groupe soit de nature sociale, religieuse, culturelle, nationale, continentale, quel que soit ce groupe, c'est la tendance que nous avons tous à penser que notre groupe est ce qu'on fait de mieux en matière de normes. Après, je vous rejoins complètement sur le fait qu'il y a d'autres pièges de la pensée, et parmi eux, ce que vous décrivez, le colonialisme et le post-colonialisme, le déni aussi, finalement, de l'histoire coloniale, effectivement, dans la pensée française contemporaine. Je crois qu'il y a aussi la question du culturalisme, c'est-à-dire que là, pour le coup, il me semble d'ailleurs exercer une influence beaucoup plus forte que l'ethnocentrisme dans la pratique de l'interculturel aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, on part sur des étiquetages quasi ethniques ou continentaux ou subcontinentaux, et qui serait l'idée selon laquelle, en fait, bon, bah voilà, il y aurait une culture maghrébine, il y aurait une culture africaine. Le monde serait vraiment d'une simplicité déconcertante, et puis il suffirait de s'adapter au public, entre guillemets, avec les publics asiatiques. On fait comme sur le pont d'Avignon, quoi, hein, avec les Asiatiques, on fait comme si, avec les Africains, on fait comme ça. Alors, ça, pour le coup, c'est une réduction tout à fait simpliste de la diversité culturelle. Donc là-dessus, s'il y a pu avoir une ambiguïté, j'appelle ethnocentrisme toute centrale d'un individu sur ses groupes de référence, quels qu'ils soient. Et après, je crois que, comment dire, il y a une racine du racisme dans l'ethnocentrisme, mais tout ethnocentrisme n'est pas nécessairement raciste. Et qu'il y a aussi dans la pensée raciste, mais aussi dans les conduites et dans les implicites racistes et culturalistes ordinaires, bien évidemment, le colonialisme et le post-colonialisme qui positionnent effectivement un pays comme la France d'une manière quand même singulière dans l'histoire de la diversité. Je crois que notamment sur la nature des discours universalistes à la française, la France est un de ces états-nations qui au monde est persuadé d'incarner l'universel et par conséquent va avoir un déni fort de l'ethnocentrisme national puisqu'ils vont penser que la civilisation française est une proposition pour l'universel et ce n'est pas quelque chose de terroir finalement.
D'accord.
Carole ? Je pense que c'est très important de parler de la culture politique, si on réfléchit sur le mot culture, parce que la culture politique d'un pays va influer énormément sur le travail socio-éducatif. Donc, un des principaux pièges, c'est de penser la culture et l'interculturel de manière très restreinte, comme j'ai dit au départ. Le travail social par nature met le professionnel en présence de l'autre, avec un majuscule. C'est l'altérité. On est toujours en face de quelqu'un qui est différent de soi dès qu'on commence à poser des actes de travail social. Donc, dans le genre des pièges, les données interculturelles peuvent être prises en compte pour avoir beaucoup plus d'importance qu'ils ont dans la réalité. La vie d'une personne, c'est aussi ses conditions socio-économiques. C'est aussi la classe dans laquelle il se trouve. Donc, c'est ça un des principaux pièges, de mettre trop l'accent sur la culture. Stéphane l'a dit avec d'autres mots, mais je le dis avec mes mots d'assistante sociale, si vous voulez. Oui. Et dans l'exemple de la jeune femme dont j'ai parlé, par exemple, celle qui commençait à parler de sa vie à la descente de la voiture, de ses difficultés. Mais en fait, il y avait des éléments qui relevaient de sa culture maghrébine, mais il y avait aussi d'autres éléments de son histoire personnelle, des rapports intergénérationnels classiques, enfants-parents, Donc, il y avait tellement d'autres éléments à prendre en compte. Mmh. Et c'est ça, une des grandes difficultés pour le travailleur social, c'est de faire la part des choses, de faire des diagnostics le plus... qui tiennent le plus compte de la des réalités. C'est pas toujours facile de faire la part des choses. J'ai un exemple en ce moment, je travaille sur un projet au Sénégal et il y a des différends avec les intervenants sénégalais. J'ai franchement du mal dans cette situation à séparer ce qui relève des pratiques ou des mentalités des gens là-bas. Et ce qui relève d'autres choses, des questions de personnes ou des questions d'organisation ou autres. J'ai un peu du mal dans cette situation, je l'ai dit. Donc, ça demande des analyses fines.
Sur le culturalisme, bon, je voulais pas du tout vous accuser. Hein, non, c'est bien parce que ça vous a permis de.
C'est bien, vous avez peur maintenant.
Non, pas du tout. Mais ça vous a permis de préciser. Non, sur le culturalisme, je pense que c'est un piège massif, effectivement, qui est d'une part de fossiliser les cultures dans une vitrine, dans un musée, et de dire, Les Maliens sont comme ça, les Sénégalais sont comme ça, les Botswanais sont comme ça, etc.
Les femmes sont comme ça, les enfants sont comme ça, les adolescents sont comme ça,
les jeunes des cités sont comme ça, et d'avoir des stéréotypes qui sont des outils extrêmement faciles et généralement d'ailleurs très manipulés par les médias, parce que on a 3 minutes pour dire quelque chose, donc on a dit un jeune des cités, ça y est, on a tout dit. C'est un mot valise qui permet et ça c'est. C'est un des gros pièges auquel le travail social est confronté. C'est puisque j'ai quelqu'un qui parle pas bien le français devant moi, et puisque il me dit qu'il croit en des sorciers, des choses comme ça, eh bien c'est ça ce qui explique la situation dans laquelle il se trouve. Ouais. Et du coup, moi, travailleur social, j'ai plus rien à y faire. Parce que je suis pas un sorcier, je suis pas un marabout, et donc je ne comprends pas bien. Puisque je comprends bien, je me retire de l'affaire et je le laisse se débrouiller avec son histoire culturelle. Et je pense que ça c'est un des pièges majeurs dans lequel il faut arriver à équiper intellectuellement les travailleurs sociaux pour qu'ils puissent s'y coltiner et se sentir légitimés pour intervenir. Hein, je pense que ça c'est très important. Et puis bon, il y a le revers de la médaille, parce que les choses ne sont jamais simples. Le travailleur social, il est quand même aussi investi d'une certaine mission. Et on peut questionner l'universalisme de la France, on peut questionner l'ethnocentrisme de la France, mais en même temps, en tant que citoyen, moi je me dis que la place de la femme dans la société française, elle est enviable. Et que j'ai pas envie de revenir en arrière dans ce qui était pendant que je faisais mes études, où l'IVG était interdite, où les carnets de chèques, les femmes n'y avaient pas droit, il n'y avait pas de compte bancaire, et que cette place de la société, ce vivre ensemble qu'on a acquis de haute lutte, quand même, il faut le rappeler, aujourd'hui, il doit pas être non plus perdu de vue quelque part. Et c'est toute la difficulté de combiner cette ouverture à l'autre et aux représentations de l'autre, avec en même temps le maintien d'une certaine éthique du vivre ensemble. C'est là où on est dans une ambiguïté, une contradiction, mais une tension permanente qui ne peut pas se résoudre facilement. C'est-à-dire, on peut pas dire c'est comme ça ou c'est autrement. Mais il faut ne pas oublier non plus que à côté de cette ouverture à l'autre, il y a aussi des combats qu'on a menés depuis 50 ans et qui ont abouti à une certaine façon de vivre ensemble, qui me semble légitime de continuer à militer pour qu'elle persiste et pour qu'elle continue à se développer.
D'où l'importance justement de travailler en équipe, de travailler ces questions véritablement, de ne pas les laisser courir, de les travailler. Je vous donne un des exemples qui m'a marqué le plus quand j'étais responsable du pôle santé à Mantes-la-Jolie. Un jour, on accueillait un stagiaire. Son rôle était à l'accueil d'un centre social pour le santé. J'accueille la jeune femme. Je prête même pas attention à sa tenue vestimentaire parce que d'origine américaine, vous avez entendu mon accent, donc vous savez. nous, on vit les différences culturelles assez différemment dans le quotidien aux États-Unis. Celles qui me vendent mes petits gâteaux à l'aéroport chaque fois que je prends l'avion est marocaine avec le foulard et l'habit longue, si vous voulez. Donc, je finis par ne pas voir certaines choses. Donc, j'accueille ce stagiaire qui portait le foulard islamique. Et puis, je ne le vois même pas. Quelqu'un d'autres membres de l'équipe viennent me voir. Mais Carole, est-ce que vous avez vu? Elle a le foulard islamique. On ne peut pas... Nous sommes une institution. On ne peut pas se permettre ça à l'accueil de notre centre. Tout à coup, je fais... Oh, effectivement, c'est là où je me suis dit, problème. Je vais la voir, on commence à discuter. Elle résiste beaucoup à ce que je lui dis. Je lui dis que je préfère qu'elle ne vienne pas, que je dis préfère, je vais doucement. Mais le message était ne pas venir avec le foulard. Bon, elle résiste, elle argumente, elle dit mais en Grande-Bretagne on fait comme ça. Moi c'est mes croyances, c'est mes idées. Bon. Alors, j'ai dit, écoutez, on va réfléchir ce soir. Vous rentrez chez vous, moi je rentre chez moi, on réfléchit. On n'a pas été d'une manière forte dans ce cas. Moi, j'ai sorti tous les bouquins que j'avais sur la laïcité dans le contexte français. Parce que ce n'était pas mon contexte d'origine, à moi. J'arrive à la conclusion que, quand même, il ne faudrait pas qu'elle porte en France ce foulard à l'accueil de ce centre. Et moi, j'étais responsable de ce centre. Pendant 3 jours, on discute. On retourne chez soi réfléchir. On rediscute. Et à la fin, vraiment, ça nous a obligés, elle comme moi, à clarifier nos idées et nos positionnements. Et à la fin, elle était d'accord pour porter un simple bandeau à l'accueil. Et moi, ça me convenait. Ça me convenait. J'ai un deuxième exemple. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est des choses tellement vécues au quotidien. C'est qu'au Pôle Santé, on avait un centre de ressources. Un jour, 2 femmes marocaines viennent vraiment avec presque tout le tenue islamique. Pas burqa, mais tout le foulard couvert du pied à la tête. Ils veulent des informations sur l'hygiène. On commence à discuter. Je leur demande quel est leur projet. Ils avaient un super projet, un des meilleurs que j'ai jamais vu, sur l'hygiène dans la vie quotidienne. Sommeil, propreté, plein de choses comme ça. À force de se connaître et préparer leur projet, j'ai découvert une femme avec une pensée très élaborée. Elle savait parfaitement pourquoi il portait les vêtements islamiques. Enfin, il savait parfaitement. Et puis, on est arrivé à vouloir co-animer des séances de groupe ensemble. Elle dans leur tenue, moi dans ma tenue. Et c'est ce qu'on a pu faire, d'animer des séances ensemble. Et c'était passionnant, avec des femmes notamment. Et on arrivait à parler des maillots de bain, de comment on va sur la plage. On est arrivé à cela. C'était une des plus grandes réussites, entre guillemets, je pense, de ma vie professionnelle.
Je crois que Stéphane...
Moi, je partage... En grande partie, ce qui a été dit, en particulier sur les outils d'émancipation des gens, mais je voudrais quand même rajouter un petit bémol, parce que la situation est complexe. Elle est complexe, le foulard n'est qu'un symptôme. Et il faut bien comprendre ce qui se joue derrière le foulard. Que les mamans viennent avec leur foulard, je pense que ça pose aucun problème dans les institutions. Mais que les adolescentes, en pleine crise pubertaire, donc difficulté d'identité, difficulté de construction, difficulté de relation aux autres, prennent le foulard comme une protection, comme on le voit beaucoup, et s'enferment derrière cette pudeur qui est protégée et dans ses relations avec les garçons pose un problème de développement, pose un véritable problème. Et on les voit dans les actions qu'on peut mener dans les quartiers, voilées ou pas voilées d'ailleurs, hein, même des filles pas voilées, mais qui tiennent des discours qu'on entendait il y a une vingtaine d'années, mais qui deviennent de plus en plus prégnants, c'est « on ne veut plus parler de sexualité, c'est péché ». Et donc toutes les préventions, attention, le préservatif, la contraception, etc., on ne veut plus en parler parce que c'est péché. Donc il y a quand même une irruption du religieux dans une tranche d'âge, au grand dam des mamans. Dans les centres sociaux, les mamans nous disent mais nous on voulait pas, on est là en France et on voulait qu'elle ne porte pas le voile. Et les jeunes adolescentes s'engagent dans la construction adolescente dans ce dispositif. Alors je crois que plus on en parle, plus on suscite ce type de réaction. Et qu'il est très important, justement, de ne pas parler du voile en tant que voile, mais de parler de l'adolescence dans un quartier machiste, dans un quartier où on parlait des jeunes qui tenaient le banc. On a derrière tout ça une construction identitaire adolescente qui se fait au nom de une religion, pas vrai. C'est simplement un prétexte. Mais il y a des relations humaines, des relations garçon-fille, qui se dénaturent de plus en plus et qui prennent des atours. C'est ça que je dis, ça n'est qu'un symptôme. Et il ne faut le considérer que comme un symptôme, mais il se passe quand même des choses qu'il est important pour le travailleur social d'aborder frontalement. Et s'il aborde au travers du symptôme qui est le voile, il se fourvoie. Parce qu'il va se retrouver devant un discours fermé, c'est la religion qui ne... Mais s'il prend les outils, comme Briac le décrivait tout à l'heure, de dire pourquoi est-ce qu'il y a ce symptôme, pourquoi est-ce que cette jeune adolescente se construit son adolescence dans ce refus de l'autre, dans cette protection, dans cette crainte, cette paranoïa quelquefois même, et essayer de le construire avec elle, je pense qu'on arrive à progresser. Mais il ne faut pas frontalement, ça je suis tout à fait d'accord, envisager le voile en tant que voile. Mais c'est un symptôme.
C'est ça. Donc Carole, vous souhaitez réagir?
Oui, je voulais revenir effectivement à ces pratiques professionnelles et la relation interculturelle dans le travail social. Je voudrais élargir à nouveau les débats. Je voudrais revenir, quel est le travailleur social? Quelle est la relation en travail social? C'est une relation qui doit partir des préoccupations des usagers.
Absolument.
Avec leur manière d'expliquer. Le travailleur social doit être constamment à l'écoute. Le travailleur social doit être dans le non-jugement. Il y a peut-être d'autres lieux, de la justice ou autre, pour juger les gens. Mais le travailleur social, il est dans le non-jugement. C'est le fondement même de notre profession. Et le travailleur social, la base de la relation, c'est la confiance. Donc, est-ce qu'on sait établir la confiance avec les usagers, quel qu'il soit? C'est ça la question. Quand on travaille dans les quartiers, est-ce qu'on... Parce que les quartiers défavorisés, entre guillemets, mais partout, le raisonnement tient pour partout. Est-ce qu'on sait établir des relations de confiance? Et plus qu'on a ces relations de confiance, plus qu'on est au clair avec soi-même en tant que travailleur social, plus qu'on est à l'aise avec les autres, mais est-ce qu'on sait se positionner pour avoir la confiance des populations? De ne pas rester toujours dans nos bureaux, par exemple. Hein?
Et être soutenu par nos institutions et aider aussi.
Oui, et souvent, c'est souvent une des plus grandes tensions que peuvent vivre les travailleurs sociaux. Ce qu'ils ont envie de faire en tant que professionnels et praticiens et ce que les institutions, comment les institutions les encadrent. C'est pour ça que quand j'étais responsable du pôle santé, bon, nous avons essayé d'avoir des pratiques qui favorisaient les rapports avec les usagers. Et finalement, on était la moitié du temps dans les quartiers et l'autre moitié dans les bureaux. Mais moi, je disais en rigolant, mais on a fonctionné en tant que service de santé comme la prévention spécialisée. On était dans la rue, on était proche des gens. Et ça établit les liens de confiance. Et ça a fait qu'un jour, des jeunes viennent me demander de faire une intervention dans la journée mondiale contre le sida, de lutte contre le sida. Bon, là, j'adore quand les populations demandent, nous présentent leurs interrogations. J'y étais, c'était fabuleux. Garçons et filles ensemble. C'était en terminale, je crois. Ils étaient garçons et filles ensemble. On a parlé de tout. Et ça venait naturellement. Donc, c'est nos pratiques de travailleurs sociaux qu'il faut aussi interroger.
Merci, Carole. Oui. Ouais, Stéphane.
Oui, je crois que tout ce qui vient d'être dit, évidemment, il y a du sexisme dans l'éducation nationale. C'est très bien quand la population vient, mais je pense qu'il ne faut pas non plus être un peu trop optimiste. L'interculturel, c'est aussi du conflit. C'est aussi du conflit. C'est des luttes. C'est des luttes de pouvoir. C'est des luttes d'influence. C'est des revendications. C'est des dominations. C'est des soumissions. Et il faut en être parfaitement conscient. Et il faut être au clair avec ça. C'est-à-dire quel jeu on joue, quel rôle on fait jouer aux travailleurs sociaux dans ces luttes et dans ces relations de domination et de soumission. Et le travailleur social se doit d'avoir une position personnelle là-dessus. Il se doit d'être au clair avec sa militance, avec qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là, quelle éthique j'ai et qu'est-ce que je défends. Et c'est peut-être précisément parce que c'est très difficile de se positionner soi-même à l'égard de ce religieux érigé comme quelque chose par nature sacré et inatteignable que finalement le travailleur a une réaction de recul par rapport à ça. Dès lors que le mot religion est prononcé, je ne fais plus rien. Je m'en abstiens.
Mais il n'y aurait pas que le mot religion dans ces cas-là. Il y a aussi le fait d'étiqueter des pratiques sur le culturalisme, comme vous disiez.
Mais simplement aussi dans le travail social, quand on reçoit une famille, il faut aussi pouvoir se dire cette famille, pas forcément parce qu'elle porte le voile, ça peut être pour n'importe quelle autre raison, dans sa façon d'être ou sa façon de penser ou sa façon d'être avec, au sein du couple ou avec les enfants, peut nous faire peur, peut nous mettre en colère. Enfin, il y a plein de choses qui se passent quand on est dans la relation à l'autre qu'il faut pouvoir dire et exprimer. Parce que c'est bien, effectivement, de pouvoir dire « je suis ouvert à l'autre, je veux comprendre ». Il faut aussi pouvoir se dire soi-même quelles sont ses peurs et que ces peurs, ce ne sont pas que des peurs. Hein, mais pouvoir aussi se reconnaître pour ensuite qu'il y ait des lieux, des instances où on puisse évoquer ces choses et qu'elles soient entendues pour après pouvoir les dépasser et arriver effectivement à une reconnaissance de l'autre et de ses pratiques.
Briac.
Oui, juste un petit mot aussi, parce que du coup, il y a aussi un écueil dans lequel nous sommes nous-mêmes en train de tomber, parce qu'effectivement, c'est des questions complexes, et je vous rejoins complètement, c'est vrai qu'il ne faut pas en occulter la dimension conflictuelle, il ne faut pas en occulter la dimension politique, c'est pas de simple culture et des manières d'être qui seraient éloignées de tout rapport de domination, d'inégalité socio-économique.
Faut pas faire d'angélisme.
Complètement. Non, mais c'est-à-dire... Faut pas faire un interculturel dont on pensait qu'il pourrait être apolitique. Il est pas apolitique, il est lié à des questions de pouvoir et à des classements sociaux. Mais il y a aussi autre chose, parce qu'on est aussi du coup en train de tomber inconsciemment là-dedans. Ce n'est pas dans un sens unique. Je me souviens avoir lu, je le citerai pas d'ailleurs, mais un ouvrage d'un sociologue sur l'interculturel dans le travail social qui m'avait profondément agacé parce qu'on aurait dit qu'on avait une action sociale uniformément blanche, française et laïque qui devait se poser des questions sur des minorités qui ne l'étaient pas. Attention, quand on regarde aujourd'hui l'action sociale éducative au sein même de l'action sociale éducative des enseignants, des éducateurs, d'assistantes sociales, il y a une grande diversité de cultures, de religions, de convictions politiques et il y a aussi des situations de retournement minoritaire-majoritaire. Je me souviens d'un éducateur qui m'expliquait qu'un jour, une famille arrive et le père lui dit « je suis juste venu voir monsieur ce dont un noir était capable ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus du racisme ressenti par des usagers des services sociaux qui seraient uniformément blancs. Il y a aussi des professionnels qui vont être perçus comme minoritaires ou particuliers et qui vont vivre de la part des réactions de leurs usagers des formes de délégitimation du fait qu'on va les classer dans une minorité spécifique. Et deuxième petit point qui me semble très important, j'étais avec des assistantes sociales il y a 3 jours, et j'aurais tendu un petit piège, mais constructif au départ, de leur demander comme ça de manière implicite, j'aimerais que vous nous disiez qui vous êtes et où vous travaillez, et que vous vous présentiez sous un angle interculturel. Je l'ai fait sans le définir, pour voir ce qu'elles entendaient par ce terme. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elles l'ont toutes fondé en géographie. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu aussi une femme qui nous disait bah, « Moi, j'ai grandi dans la région Nord-Pas-de-Calais et quand je suis arrivé en Île-de-France, c'est vrai que j'ai eu du mal avec les Parisiens. » On a eu une femme qui a grandi à Marseille et qui nous expliquait. Et là, ce qui était intéressant, c'est que pour les femmes qui, parmi elles, avaient aussi un récit migratoire dans leur histoire, mais originaires d'Extrême-Orient, d'Afrique du Nord, d'Angleterre, etc., toutes se rendaient compte qu'elles pouvaient comparer leur situation d'exilées à des exils certes moins distants en termes de kilomètres, mais où donc il y a bien aussi des questions interculturelles qui se posent. Donc je crois qu'on gagne beaucoup par la comparaison, parce qu'en plus, ça crée de l'empathie. C'est-à-dire ce qu'on croirait, du fait de nos pensées racistes de départ, qui seraient incomparables, ben en fait, c'est comparable, parce qu'il s'agit bien de phénomènes humains. Alors, je ne dis pas que c'est l'égale distance, et que c'est l'égal dépaysement, et que c'est un égal sentiment
de différence. Surtout, c'est par rapport à ce que vous dites sur la diversité des équipes, c'est qu'il est beaucoup plus compliqué pour un travailleur social d'être issu de la diversité et au contact de cette même diversité. Quel rôle est-ce qu'il joue? De quelle légitimité dispose-t-il? Est-ce qu'il est complètement dans son rôle de travailleur social qui était forgé quand même au 19e siècle pour des blancs, et c'est la bourgeoisie catholique qui allait vers le bon peuple, que pour, la personne, la ch'ti ou la basque ou la corse qui quand même a été mis dans le même moule. Donc c'est ce rôle spécifique du travailleur social face à l'interculturel est quand même très très spécifique pour le travailleur issu de cette diversité. Non seulement on va lui renvoyer effectivement de temps en temps une question raciste que vous décrivez, mais même à l'égard de ses propres collègues, on peut très bien lui faire jouer le rôle « tu viens de là-bas, donc tu t'en occupes ». Et c'est ton truc.
Complètement.
Tu te débrouilles. Et tu te débrouilles. Alors que, bon, quand j'étais au Botswana, je ne pouvais pas parler de toute la France.
J'irais tout le temps, pareil, dans les pratiques, où on dit ah bah tiens, il y a un problème d'autorité, donc vaut mieux que ce soit un éducateur qui intervienne.
C'est du même ordre.
Oui, tout à fait.
On ne pense pas à la compétence ou le métier, on pense une ethnicisation ou une sexuation de l'action sociale. Il y aurait des choses qui seraient mieux résolues par un tel pour un tel. Je vous fais remarquer quand même que vous voyez à quel point notre langage est piégé. Vous disiez « issu de la diversité », comme si ça ne concernait que certaines personnes. C'est une expression galvaudée par les médias, etc. Nous sommes tous issus de la diversité, ou alors personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des personnes plus issues de la diversité que l'autre, et on se mange comme ça du discours. On ne sait plus comment nommer les choses, mais du coup, ça peut être une expression aussi qui peut être perçue comme discriminante.
C'est dans sa discrimination que je l'employais précisément.
D'accord.
C'est précisément
parce que
ça.
Parce que dans l'équipe, on ne voit pas, on est à la radio, on n'a pas vu vos guillemets. Vous voyez ce que je veux dire,
c'était dans son.
Parce que justement, on va lui faire jouer ce rôle-là.
Pour conclure cette émission, qui nous reste un petit quart d'heure, nous allons inviter les différentes personnes, donc Bria, Carole et Stéphane, qui sont avec nous, à avoir un dernier mot de conclusion sur cette question. Stéphane.
Je m'y attendais. c'est effectivement un sujet qui est inépuisable, et sur lequel on pourrait dire encore de très très nombreuses choses. Moi, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est d'abord que le travailleur social, il faut qu'il se sente légitime pour en parler. Il faut qu'il s'octroie le droit d'y réfléchir et le droit aussi d'intervenir sur des sujets. C'est pas sacré, c'est pas un monument sur lequel on ne peut pas agir. Au contraire, c'est un outil avec lequel il doit composer. Mais pour arriver à composer, moi je crois qu'il faut rajouter d'autres termes à celui de culture. Culture dont je parlais, qui était vivre ensemble, se positionner au monde. Il faut bien comprendre aussi que chacun a une identité, et une identité en sens qui est ce qui me sépare des autres. Je suis moi, je suis pas les autres. Et si je n'ai pas cette notion que ce qui est moi est limité par ma barrière cutanée, je deviens complètement fou. Et l'interlocuteur que j'ai en face de moi aussi a le même clivage. Et une troisième dimension qui est celle de communauté, et que là je milite pour qu'on l'entende dans son acception la plus utilitariste, c'est-à-dire le partage d'intérêts.
simplement les intérêts que nous partageons. Dans une voiture, on partage l'intérêt d'arriver à bon port. À la maison, on partage l'intérêt d'avoir un toit, etc. Et l'appartenance, qui est une quatrième dimension, qui est tout à fait différente de celle de communauté. J'appartiens à un groupe, mais peut-être que je ne partage pas les mêmes intérêts que les gens qui partagent, qui semblent appartenir, qui partagent cette appartenance. Pardon, j'ai du mal. Mais même si je ne partage pas les mêmes intérêts, l'idéal type de ça, c'est la convention d'entreprise, hein, où on a tous les gens qui sont dans une grande convention pour appartenir à l'entreprise, même si on ne partage pas du tout les mêmes intérêts, parce qu'il y a l'OS, l'ouvrier spécialisé, et il y a l'actionnaire qui sont dans le même espace et qui ne partagent strictement pas les mêmes intérêts, mais se sentent appartenir au même groupe. Et lorsqu'une situation émerge avec l'idée, tiens, la culture est peut-être un rôle, tenter de déplier cette situation selon ces quatre axes, ce qui clive, ce qui rassemble, ce qui unit, et au contraire, donc, ce qui regroupe. Ça permet déjà de réfléchir et de dépasser les blocages auxquels le travailleur social est généralement confronté. Voilà, moi, c'est un petit mot de conclusion, puis à suivre, hein, évidemment.
Merci Stéphane. Stéphane Tessier, merci. Carole?
Bon, alors, j'ai commencé par mon parcours personnel. Je vais dire deux mots sur ce parcours. Le cosmopolitisme, je crois que c'est un mot français.
Cosmopolitisme,
oui. Est souvent suspect, malgré la mondialisation dans laquelle on vit. Parfois, on voudrait que je sois américaine ou française. Mais je suis américaine et française. Et je suis aussi quelque part sénégalaise. Je préfère additionner les couleurs, les cultures, plutôt que d'en abandonner une de mes cultures et prendre le meilleur de chaque. Mm-hmm. Ensuite, je voudrais revenir sur le rôle du travailleur social. On n'est pas des politiques. Il ne faut pas confondre les positionnements. Le travail, je ne voulais aucunement, à aucun moment, dire que l'interculturel n'est pas quelque part une question de pouvoir, de domination, de rapports sociaux. Par contre, ce que je veux dire, le rôle du travailleur social, c'est surtout d'aider les gens, d'accompagner les gens dans leur parcours, de les aider à réfléchir. On a posé le mot « le réfléchir » beaucoup de fois. Le travailleur social est là pour aider les gens à clarifier leurs idées, leurs objectifs, pas d'imposer nos manières de penser. Et on n'est pas des politiques. Moi, je n'étais pas d'accord avec certaines pratiques institutionnelles à Mantes-la-Jolie. Par exemple, quand la mairie a transformé un centre social en mosquée, tout en tenant un discours universaliste. J'étais en profond désaccord. Quand je suis en profond désaccord, je change parfois mes positionnements. Je milite aussi politiquement. Donc, il faut être au clair avec ces positionnements. Ensuite, l'universalisme. Je voudrais dire un mot. Il ne faut pas, quelque part, même si aujourd'hui on pense de plus en plus en termes multiculturels, ça se discute. Mais bon, admettons, le modèle d'intégration républicaine française était un modèle à tendance universaliste. Mais quelque part, tout le monde s'intéresse à ce modèle, dans tous les pays, et même en France. Je me rappelle une réunion politique où des émigrés sont venus me voir après en disant, en m'agressant presque, « Mais qu'est-ce que vous pensez que vous voulez, que nous on veut, les émigrés ?» J'ai répondu spontanément, ça est venu vraiment de l'inconscient, « Liberté, égalité, fraternité. » Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, « Oui, c'est ça. » Donc, je pense qu'il y a certaines valeurs, il faut pas les minimiser. Bon, je crois que Bon, je crois que j'ai beaucoup d'idées. J'ai dit beaucoup de choses très différentes pendant cette émission. Il est à nous de bien réfléchir nous-mêmes, faire réfléchir les autres, mais réfléchir nous-mêmes sur nos pratiques et trouver les espaces, comme vous avez dit, d'en parler sans tabou, en confiance, sans tabou.
Merci, merci Carole Dane.
Alors, c'est cosmopolisme.
Ah
je vais les mains dans le dictionnaire.
Merci Geneviève pour les venir toute seule. Hein. Briac Chauvel, un dernier mot.
Alors, bah, plus que justement des formes de reconnaissance de la double culture, j'aime autant que l'interculturel devienne une reconnaissance de la trouble culture, c'est-à-dire aussi les manières comme les questions culturelles sont troubles, comme elles sont floues, et aussi, je crois qu'on gagne beaucoup dans ces discussions à reconnaître aussi nos ambivalences sur ces questions-là. C'est-à-dire que c'est aussi un outil, je crois, de protection contre les caricatures culturalistes, racistes, ethnocentriques, de rappeler que nous sommes tous aussi ambivalents dans notre rapport au monde, dans nos convictions et parfois aussi dans nos principes et dans nos valeurs, puisque nous n'évoluons pas toujours dans les mêmes contextes et que par conséquent on peut tenir des discours contradictoires dans deux contextes différents sans être nécessairement un traître à ses principes ou à ses valeurs. Sur, par exemple, l'animation d'une session sur l'interculturel, il m'arrive par exemple de me positionner de manière différente en fonction de la manière dont la diversité est vécue dans le groupe. C'est vrai que quand on a un groupe qui va occulter en permanence les différences parce que la question le gêne, parce qu'ils ont envie de dire mais non mais on est tous pareils, on est universels, on est tous dans le même bateau, il faudra aussi parfois rappeler justement que ce n'est pas si vrai, qu'il y a en deçà de cette unité de façade aussi différents rapports au corps, à la parole, à la sexualité, aux convictions, aux croyances, etc. Inversement, quand on a un groupe qui semble hyper clivé par des différences d'apparence ou des conflits qui vont être très marqués, effectivement c'est là qu'il faudra aller chercher entre eux, en deçà de ces différences qui font conflit et clivage, et parfois d'ailleurs qu'ils ne les explorent pas tous, quelque chose qui soit de l'ordre d'un universel ou d'une unité. J'aimerais ajouter deux, trois petits mots comme ça, en vrac, aussi sur quelque chose que... J'ai le sentiment d'exercer un métier qui me plaît énormément, qui est parfois troublant, qui est parfois dérangeant, qui nécessite de se remettre en question régulièrement. Mais je dois aussi dire que c'est pas quelque chose de malheureux. C'est-à-dire que c'est des espaces aussi où on rigole. C'est des espaces aussi où parfois on trouve des scènes extrêmement touchantes parce qu'on va trouver des personnes qui s'engueulaient sur un sujet particulier à un moment parce que ça engageait aussi des vécus traumatiques du racisme, l'impression que l'autre ne nous considère pas, de subir des préjugés. Et puis parfois, il y a comme ça une forme d'empathie, de témoignage, de reconnaissance de l'altérité, qui sont aussi extrêmement touchantes et qui donnent envie de continuer dans cette direction. Je crois aussi finalement, et puis ça s'est vu aussi entre nous ce soir quand on discutait, on ne se comprend jamais très bien. On a toujours besoin d'explicité. Et finalement parfois aussi la maladresse est un outil de connaissance interculturelle. Faut bien parfois mettre les pieds dans le plat pour qu'on vous dise, dis donc là t'as mis le pied dans le plat. Ah je savais pas que ici c'était mettre le pied dans le plat que de se comporter ou de parler. Donc il y a aussi assumer sa maladresse, assumer sa spontanéité. À partir du moment où on se pense pas pour une puissance régnante culturelle qui a raison de quelqu'un qui peut se tromper et qui va apprendre par ses erreurs et par ses maladresses de l'autre et de l'altérité, je pense qu'on peut avancer aussi de manière cabossée sur ce terrain-là. Enfin, dernière chose, je crois qu'il y a un équilibre interculturel à trouver qui serait une manière un peu subtile d'articuler le droit à l'attachement et le droit au détachement. On vit dans une société qui en fait des tonnes sur la reconnaissance de l'individu, sur l'approche personnalisée dans le travail social. C'est quand même bizarre, si on reconnaît la personne, si on reconnaît l'individu, on reconnaît aussi ses conditions de socialisation et aussi ce qui la touche et ce qui est nécessaire pour elle dans sa culture, même si pour soi, on considère que c'est quelque chose de complètement annexe ou d'anecdotique. En revanche, n'être que sur le droit à l'attachement culturel, c'est aussi enfermer les gens au sein d'une communauté, mais dans un autre sens que celui que vous, mais d'une communauté fermée qu'ils devraient reproduire sur elle-même. Il faut aussi offrir, je crois, en démocratie, la possibilité à un individu de dire merde aux valeurs culturelles de ses parents et de ses grands-parents, de se détacher d'un certain nombre d'usages. Et je crois que cette manière-là, on a quelque chose qui est démocratique et qui est vivant. C'est-à-dire d'accepter aussi que dans une société, on puisse constituer une mosaïque un peu déglinguée par moment, que une société qui serait toujours dans l'accord permanent et dans le partage d'un implicite fort, on s'ennuierait terriblement, et que je crois aussi qu'on peut accepter dans une démocratie plurielle comme la nôtre, le fait que nous ne soyons pas obligés d'être tous d'accord dans tous les espaces. Moi, j'ai plein d'amis de classe sociale, de culture, de nationalité, de confession religieuse très différentes, et certains avec qui j'ai de très fortes proximités, puis d'autres de l'éloignement sur des convictions, sur des pratiques. On peut aussi accepter de faire ça ensemble, parce que là, on est d'accord, parce qu'on partage les choses. Et puis ça, non, on n'est pas d'accord. On peut le faire aussi de manière séparée, et ça permet aussi quelquefois de ne pas imposer toujours les mêmes usages et les mêmes pratiques. Un dernier point très concret. J'ai eu...
C'est le dernier.
Non, je crois qu'il y a aussi pour le coup une dimension politique et aussi des intervenants et des formateurs dont je fais partie sur les questions interculturelles. Ça vaut aussi le coup quelquefois d'être un peu subversif sur la question, de renvoyer aux institutions le fait que on peut critiquer la demande, la recomposer et la transformer.
Merci Briac.
Merci à vous.
Bien, donc nous arrivons à la fin de l'émission. Alors donc là nous allons faire des annonces prochaines et puis aussi vous parler d'ouvrages. Donc là je vais commencer par vous citer un livre qui s'appelle Famille et institutions, identité, culture et imaginaire. Donc ouvrage collectif coordonné par Stéphane Tessier qui est un de nos invités. Les éducations en santé également par Stéphane Tessier. Demain il y a un samedi que vous organisez portant sur le thème de colonialité, identité, altérité, émancipation.
Point d'interrogation.
Point d'interrogation, c'est vrai, colonialité entre guillemets. Entre guillemets. Voilà, et puis votre site internet, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Celui-ci, d'autres regards ?
D'autres regards, .free.fr, n'importe quel moteur de recherche, vous mettez d'autres regards au pluriel.
On trouve de suite, on trouve absolument. De suite, voilà.
On va vous donner le site de l'association de Carole Dane, donc qui est Développement Inventif Sénégal. Donc le site c'est www.dis-asso.com. Briac.